BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, un petit peu plus de 19h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct. Dans l'actualité ce soir, la dernière note de conjoncture de l'INSEE qui est tombée tout à l'heure. Du bon et du moins bon, on va voir ça avec Emmanuel Le Chypre dans un instant. Le rapport choc de Mario Draghi, l'ancien patron de la BCE, le dit, si l'Europe veut rester compétitive, il va falloir qu'elle investisse tous les ans 800 milliards d'euros en plus dans pas mal de domaines, et il faut faire ça vers un grand emprunt commun, évidemment. On sait que les Allemands sont pas très chauds sur tout ça. Et puis la keynote d'Apple, bien sûr, ça va être le temps fort ce soir, édition spéciale Tech & Co à partir de 20h sur BFM Business, mais nous on sera déjà sur le pont dès 19h30 avec nos experts qui arrivent juste après le journal. On est ensemble jusqu'à 20h, bonne soirée. Donc, l'INSEE, la note de l'INSEE qui est tombée ce matin. Bonsoir Emmanuel Le Chypre. Qu'est-ce que nous dit l'INSEE en gros? Qu'on va faire 1,1% de croissance cette année. Après, il y a des choses encourageantes sur la consommation des ménages et moins encourageantes sur l'investissement des entreprises. Si on mélange tout ça, qu'est-ce que ça nous dit Emmanuel, finalement?
C'est vrai que maintenant que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont passés, bon, ils auront quand même apporté leur lot de croissance au troisième trimestre. L'INSEE nous dit 0,3% et c'est sans doute d'ailleurs un maximum. Effectivement, tout dépendra du résultat du match qui va se jouer entre consommation des ménages et investissement des entreprises. D'ici la fin de l'année, la consommation des ménages reprendrait un peu d'élan, nous dit l'INSEE. Leurs dépenses immobilières cesseraient de baisser après 3 années de repli continu, grâce au redressement du pouvoir d'achat, permis notamment par les augmentations de salaires et les indexations de prestations sociales. Et puis à l'inverse, on a des entreprises qui risquent de continuer à freiner leurs investissements sous l'effet des incertitudes politiques et donc fiscales, sous l'effet de la dégradation de leur situation financière et des carnets de commandes, puisque l'industrie, jusqu'à maintenant, butait principalement sur des contraintes d'offres. Ça, c'était le cas jusqu'en avril. Et depuis, eh bien, les difficultés de demande ressurgissent et sont désormais aussi souvent citées, particulièrement dans l'automobile. Alors, au final, dernier trimestre légèrement négatif. Croissance de 1,1% sur l'année, vous l'avez dit, Guillaume. Après, qu'est-ce qui peut faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre? C'est vrai que on pourrait se dire que les aléas sont finalement plutôt à la hausse. Les bonnes surprises, ça pourrait être finalement les exportations. On voit que les carnets de commandes étrangers sont quand même très bien garnis, notamment dans l'aéronautique. Ça, c'est un bon point. Il y a la baisse des taux d'intérêt. Donc, globalement, une année qui commencerait sans doute sur un rythme un peu supérieur à celui du deuxième semestre, qui est quand même assez chahuté. Mais disons, donc on est toujours sur ce train de 0,2, sans doute 0,2, 0,3 points de croissance pour le début 2025.
Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité également, il y a cette audition cet après-midi de Bruno Le Maire, c'était tout à l'heure. Bruno Le Maire et Thomas Cazenave qui étaient auditionnés à Bercy par la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale. Et Bruno Le Maire qui estime contre vents et marées qu'on peut tenir l'objectif initial, à savoir ramener les déficits, les contenir à 5,1% du produit intérieur brut à la fin de l'année 2024, alors que vous savez que des chiffres avaient fuité selon lesquels on serait plus proche des 5-6. Bruno Le Maire maintient la barre. Ça aussi, on en parlera avec nos experts tout à l'heure sur BFM Business. Le message fort de Mario Draghi dans un rapport publié aujourd'hui, l'ancien patron de la BCE appelle donc l'Europe à investir 800 milliards d'euros par an en plus si elle veut rester compétitive. Et pour investir, il faut clairement passer par le biais du grand emprunt. Ça aussi, on sait que ça fâche les Allemands. Et ça aussi, on en parlera avec nos experts tout à l'heure sur BFM Business. 19h06. Dans l'actualité, c'est l'événement ce soir, la keynote d'Apple qui va se tenir à Cupertino, en Californie. Émission spéciale Tech & Co, bien sûr, à 20h sur BFM Business. Bonsoir Mélinda d'Avansouvas. Vous êtes sur place. On l'a largement parlé IA générative ce soir. On l'a bien compris, Mélinda.
Vous savez, chez Apple, les choses sont toujours bien organisées. En juin, on vous présente les systèmes d'exploitation. En septembre, les nouveaux iPhones qui supporteront les nouveautés logicielles. Cette keynote ne dérogera pas à la règle. Apple mise sur ses nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro pour relancer des ventes un peu au ralenti ces derniers mois. Pas de grandes nouveautés sur le design à attendre. Non, ce sera à l'intérieur. Apple présente aujourd'hui ses premiers véritables smartphones portés par l'IA avec l'arrivée d'Apple Intelligence et toutes ses promesses. Une belle révolution en vue pour Apple, histoire de se mettre à niveau de la concurrence aussi. Mais avec un souci de taille, on ne sait pas quand Apple Intelligence sera déployé sur deux marchés clés pour la marque, l'Europe et la Chine. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il faudra donc bien plus qu'une puce plus puissante, quelques fonctions nouvelles pour donner de l'intérêt aux nouveaux venus. Néanmoins, tous les analystes prédisent déjà une forte demande. Mais le salut viendra peut-être de l'Apple Watch, la montre connectée fête ses 10 ans cette année, le premier produit inédit lancé par Tim Cook en 2014, qui a su créer un véritable marché sans en être pourtant pionnier. Un marché dont Apple est leader aujourd'hui avec des millions de ventes et un produit porteur. Désormais, il se vend plus d'Apple Watch que de montres horlogères dans le monde.
Et ça, c'est assez incroyable. Merci beaucoup, Melinda, keynote d'Apple à Cupertino qui vient de commencer. On vous donnera tous les temps forts et puis édition spéciale, bien sûr, à 20h, à Tech & Co avec François Sorel et toute son équipe, évidemment. Dans l'actualité des entreprises, d'abord, un mauvais signal dans le domaine de l'électrique en Europe, le suédois Northvolt, considéré comme l'un des grands espoirs européens dans le domaine de la batterie, Northvolt a annoncé qu'il allait devoir supprimer des postes, sans toutefois donner de chiffres. Il a aussi annoncé qu'il allait réduire le périmètre de ses activités. Et puis Carrefour qui revient en Inde, le groupe l'avait quitté il y a 10 ans. Il va revenir d'ici l'été prochain grâce à un accord de franchise avec une entreprise basée à Dubaï qui s'appelle Apparel, qui est déjà très présent sur le marché indien. Pauline Tadevin.
L'Inde, l'un des plus grands marchés alimentaires au monde avec tout un tas de petits épiciers mais pas d'enseigne prédominante. Carrefour veut jouer cette carte et devenir une référence, nous explique Patrick Lasfargue, directeur exécutif du partenariat international de Carrefour.
Il y a eu des révolutions économiques absolument remarquables et on constate que le marché est encore assez fragmenté. Donc pénétrer en Inde, pour nous, Carrefour, avec tous les savoir-faire qu'on peut apporter, nous paraît absolument indispensable dans notre stratégie.
Pour se donner un maximum de chance, Carrefour revient en Inde via un partenariat de franchise avec Apparel Group, qui a déjà 250 magasins. Ils comptent ouvrir leur premier petit supermarché Carrefour d'ici l'été prochain, en profitant d'un environnement plus favorable qu'il y a 10 ans.
Une stabilité politique qu'on a depuis 2014 avec le gouvernement Modi, qui a participé à la création de beaucoup d'infrastructures, l'amélioration du pouvoir d'achat des Indiens, aussi une harmonisation fiscale qui n'existait pas du tout en 2014. Et puis ensuite, il y a cette volonté, comme je l'évoquais, des classes beaucoup plus jeunes d'avoir des enseignes internationales.
Du fait des habitudes alimentaires locales, Carrefour compte moins exporter de produits vers l'Inde qu'ailleurs et plus s'appuyer sur la production locale. Et si la grève prend à New Delhi, dans 2 ans environ avec Apparel Group, ils envisagent de se développer vers le sud du pays, Bombay, puis Bangalore.
Pauline Tadevin, et puis on voulait dire un mot de cet accord monstre signé chez Boeing hier entre la direction et un syndicat qui pèse plus de 32 000 salariés. La direction a pris le devant et signé un gros chèque là pour éviter une grève massive qui devait débuter vendredi prochain. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça.
Pour éviter une nouvelle crise, Boeing sort le carnet de chèques, et pas qu'un peu. Les plus de 30 000 salariés de la région de Seattle et de Portland vont être augmentés de 25% sur les 4 prochaines années. À cela s'ajoute une réduction du coût des soins de santé, une baisse des heures supplémentaires obligatoires, 12 semaines de congés parentaux rémunérés et surtout l'engagement de construire le prochain avion de Boeing dans la région. En clair, une garantie d'emploi pour les 50 prochaines années, se félicite un syndicaliste. L'accord qui doit encore être ratifié par les salariés devrait en tout état de cause éviter la grève massive attendue cette semaine. Il s'agit coûte que coûte pour Boeing de fidéliser ses salariés au moment où l'avionneur tente d'accroître les cadences de production de son 737 MAX et d'améliorer la qualité de fabrication. Objectif, 38 appareils par mois d'ici la fin de l'année. Après des mois de difficultés pour Boeing, pas question d'ajouter en plus une crise sociale. Certes, ce plan va coûter cher, mais il permet au nouveau directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, de pouvoir dérouler plus sereinement son plan de redressement.
Voilà la direction de Boeing qui achète la paix sociale. Et puis, figurez-vous, une petite révolution. L'Italie a annoncé aujourd'hui qu'elle allait relancer le nucléaire. Il n'y avait plus de nucléaire en Italie depuis la fin des années 80. C'était d'ailleurs à ce jour le seul pays des G7 à n'avoir aucune centrale en activité. Mais les choses pourraient bouger vite désormais. Raphaël Couder.
Le gouvernement italien veut créer une nouvelle entité dont le but sera de concevoir et construire de petits réacteurs modulaires, les fameux SMR. Selon l'agence Bloomberg, plusieurs énergéticiens publics italiens ainsi que la start-up Nucleo ont d'ores et déjà démarré des discussions avec les autorités. Et l'Italie souhaite aller vite. Ce week-end, le ministre de l'énergie a annoncé la couleur. Il prévoit de proposer au Parlement dès l'année prochaine une loi réautorisant le nucléaire. L'utilisation de l'atome comme source d'énergie est un sujet particulièrement controversé en Italie depuis plusieurs décennies. Les centrales y sont interdites depuis un référendum initié en 1987, juste après la catastrophe de Tchernobyl. À la fin des années 2000, Silvio Berlusconi avait essayé de rouvrir le débat, mais l'accident de Fukushima a stoppé net cette tentative. Aujourd'hui, le gouvernement de Giorgia Meloni considère le nucléaire comme indispensable pour atteindre ses objectifs climatiques, mais aussi pour faire baisser la facture énergétique des Italiens.
Voilà, l'Italie qui va relancer le nucléaire. Raphaël Couder avec nous sur BFM Business, 19h12. On retourne sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
On termine quasiment 1% de croissance sur le CAC 40 ce soir.
Oui, il serait temps puisqu'on avait perdu 3,5% sur la semaine écoulée. Donc un rebond essentiellement technique. On a ramassé des titres qui étaient devenus vraiment pas chers. On signe des volumes d'ailleurs pas très importants à 2,6 milliards. Le CAC donc plus 0,99, 7 425 points. Du vert partout sur les places européennes. Et on s'est réfugié sur des valeurs, alors pour le coup très défensives. Saint-Gobain, meilleure hausse du jour à plus 2,4%, 76,84. À noter Total Energy qui se détache bien aussi, plus 1,8% à 60,96€, alors que le pétrole n'a pas fait grand chose, mais on est revenu sur le titre Total et ça a bien aidé le CAC 40. Et puis l'homme malade reste l'homme malade pour le moment, c'est Kering, moins 2,5%, plus forte baisse de l'indice, 230,30€, alors qu'on a perdu quand même 12% sur la semaine écoulée. Alors là, deux baisses de recommandations, Royal Bank of Canada et Barclays qui ont dégradé le titre, qui continue donc de s'enfoncer dans le rouge. Le CAC 40 plus 0,99, 7 425 points.
Merci beaucoup Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. On est à la mi-séance bien sûr sur le marché américain. Le Dow Jones qui grappille 1,5%, 40 961 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui aussi qui grappille 1,3%, 16 907. Tout ça à la mi-séance, bien sûr. Bientôt 19h15, les experts arrivent. Ils seront là dans un instant. De quoi est-ce qu'on parle? Bruno Le Maire qui vient de nous dire qu'on pourrait peut-être contenir le déficit comme prévu à 5,1% cette année. La note de l'INSEE un peu mi-figue, mi-raisin. On parlera de la keynote d'Apple, évidemment, on va monter en puissance. Puis donc ce rapport de Mario Draghi qui dit si l'Europe veut rester dans la course, il faut investir. Mais alors massivement tous les ans. Et il faut faire ça en commun, évidemment. C'est là que le bas blesse. Tout ça jusqu'à 20h, entre autres, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h18, ils sont là, nos experts, comme tous les soirs, jusqu'à 20h pour refaire l'actualité en direct. Isabelle Bordry est avec nous. Isabelle, bonsoir.
Bonsoir, Guillaume.
Bienvenue, cofondatrice de Rétinci. Léonidas Calogiropoulos est avec nous. Léonidas, bonsoir.
Bonsoir.
Aussi. Président de Médiation et Arguments, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Et puis André Lescluc-Pietri qui va nous rejoindre, président de la JEDAI qui va arriver dans 2 minutes. Ah oui, tout le monde est rentré à Paris, ça y est, c'est fini.
Ah, les embouteillages ont rattrapé l'été.
Le quotidien, après André va nous rejoindre dans quelques secondes sur BFM Business. On parlera largement à partir de 19h30, bien sûr, de la keynote d'Apple. Entrez André. On joue en direct, voilà. Les bouchons parisiens, la vie parisienne, le
la
quotidien.
La vie parisienne a
c'est
recommencé.
Ça, André. Eh oui, c'est ça, évidemment, le
il
quotidien.
C'était beau, le temps des JO.
il paraît déjà bien loin. Bien, vous êtes là. On parlera, je le disais, après 19h30, bien sûr, de la keynote d'Apple qui va nous tenir en haleine. C'est le grand rendez-vous de la soirée. Édition spéciale Tech & Co à partir de 20h sur BFM Business. On parlera de ce rapport de Mario Draghi aussi, qui met l'Europe face à ses responsabilités. Mais on a 10 minutes là pour parler un petit peu finances publiques, économie française. Avec Bruno Le Maire, je vous le fais rapidement, qui a été auditionné tout à l'heure à l'Assemblée nationale, au même titre que Thomas Cazenave, et qui dit non, on entend dire que les déficits pourraient dériver jusqu'à 5,6% du PIB à la fin de l'année. Moi, je me tiens à mon 5,1%. Je peux vous dire que nous allons maintenir les 5,1%. On comprend qu'il soigne sa sortie, Bruno Le Maire, mais après, déjà.
Il a pris un certain nombre de dispositions pour geler des dépenses et il les a mis sur la table. Il dit en substance, j'ai fait le job. Si on veut contenir les déficits, il suffit de prendre ce que j'ai laissé. Maintenant, je pense que on est à un moment où faut quand même essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que la logique que nous avons tous soutenue, moi je me sens avec l'ensemble des responsables patronaux, très comptable de ce dérapage, oui. Parce que c'est une politique qu'on a soutenue. D'ailleurs, on est unanime à dire qu'il faut continuer à avoir une politique de l'offre. Et la politique de l'offre, elle a une logique, consiste à soutenir les entreprises, créer des emplois. Les emplois font rentrer des recettes. Et tout cela doit créer un cercle vertueux. Et en principe, ça doit rétablir nos comptes publics. Et d'ailleurs, plus l'emploi se porte bien, plus en principe, la totalité de nos équilibres devrait être établie.
Qu'est-ce qui se passe à Bercy?
Alors,
c'est Emmanuel qui nous disait tout à l'heure, ça pose des questions sur l'expertise du côté de Bercy. Alerte en début d'année, et puis de nouveau, là...
D'abord, c'est l'ampleur des dérapages qui pose un problème, mais sur l'analyse que nous pourrions partager, là où les choses ont dérapé, c'est la productivité. La productivité française est trop basse, et donc tous ces indicateurs qui devaient être positifs, qui devaient en principe créer de la richesse et faire que nos comptes se portent bien, avec une productivité qui est basse, eh bien, on n'a pas les résultats. C'est-à-dire que globalement,
qu'est-ce qu'on n'a pas vu à Bercy deux fois en l'espace
un dérapage de 2, 3, 4 milliards, on peut l'imaginer. 16 milliards, on ne comprend pas.
Alors,
16 milliards, on ne comprend pas.
On a perdu la main à Bercy ou qu'est-ce
Alors, probablement, il y a eu quelque chose qui s'est émoussé. C'est en tous les cas ce qu'un certain nombre d'interlocuteurs me disent. C'est que lorsque l'on a commencé à parler de quoi qu'il en coûte, la direction du budget, qui en principe tenait la totalité des ministères et l'ensemble des comptes publics, et qui était capable de lancer des sonnettes d'alarme et de globalement de dire là vous arrêtez, enfin, c'était en principe la vigie de Bercy, et bien la direction du budget a perdu son pouvoir de couperet, et là on a un des effets qui est absolument flagrant, c'est un dérapage qui a pris des proportions que l'on ne devait pas avoir en principe.
Et donc Bruno Le Maire qui nous a dit tout à l'heure à l'Assemblée, mais si nous avons des crédits de gelée à hauteur de plusieurs milliards, nous avons des rentrées fiscales qui laissent penser que nous pouvons tenir ce 5,1%, limiter les déficits publics à 5,1% du PIB à la fin d'année, et pas 5,6 comme le laissaient procéder certains chiffres. Comment est-ce que vous voyez cette situation, vous, André Lescure?
J'ai envie d'être optimiste après les deux mois qu'on a passé les Jeux Olympiques, mais j'ai beaucoup de mal. Je pense que on a quand même aujourd'hui d'abord un problème de compétence. Je veux dire, c'est pas possible d'avoir ce genre de dérapage. J'entends quand tu dis on est tous comptables, mais on n'a pas été tous comptables d'une politique de saupoudrage, parce que c'est très bien de faire de la politique de l'offre. Mais encore faut-il qu'il y ait une stratégie. Elle est où là? En tout cas, moi, avec la malorgnette qui est l'innovation à la recherche, aujourd'hui, on donne à tout le monde. France 2030, c'est un immense saupoudrage où on a déjà décaissé, je crois, engagé, 26 milliards d'euros en deux ans. Je ne vois aucun. Alors, ça a fait plaisir à plein de gens, à plein de start-up. Il y a plein de gens qui vont me détester en entendant ça. Mais où sont les résultats? Donc, première chose, on saupoudre. Deuxième chose, on n'évalue pas.
Parce que les boulets sont encore très forts, André, aujourd'hui.
Je pense qu'on passe beaucoup de temps à toujours dire combien on va mettre. On passe très peu de temps à une évaluation réelle. Je veux dire, on a de temps en temps la Cour des comptes qui tire la sonnette d'alarme, mais qui c'est qui lit les rapports de la Cour des comptes? Peu. Qui c'est qui en tienne compte? Personne. Donc ça, c'est quand même un vrai problème démocratique. Et troisième chose, je pense qu'il faut bien avouer, on a perdu le contrôle d'un monstre bureaucratique qui est devenu l'État. Et c'est pas d'être libéral ou non libéral que de dire ça. Je pense qu'on est devenu une administration tellement complexe que personne n'y comprend plus rien.
Isabelle, vous êtes optimiste, vous, malgré tout, ou pas?
J'espère que Bruno Le Maire a raison et qu'à la fin de l'année, le dérapage ne sera pas exactement ce qui est annoncé.
Vous ne pouvez pas nous dire autre chose.
La seule chose, c'est qu'effectivement, on manque de vision. Et c'est ce que Draghi nous a dit et nous a expliqué ce matin
à propos
de l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut investir, c'est sûr, il faut investir massivement, mais il faut avoir une vision et il faut porter effectivement la compétitivité dans des univers qui doivent être fléchés, qui doivent être maîtrisés et sur lesquels les industriels doivent effectivement rendre des comptes et être suivis de manière très ferme.
Non mais d'accord, on est d'accord sur l'idée, ce que défend André, qui est de dire c'est bien de dire on fait de la politique de l'offre, mais c'est pas une fin en soi, quoi.
Non, c'est pas uniquement ça. Je pense qu'il y a un élément qu'on a manqué et que l'on est en train de voir émerger en ce moment. Je pense qu'il est très important, c'est que la compétitivité, c'est aussi la capacité à avoir un pays qui est à s'engager, qui s'engage dans l'innovation, dans la croissance. Or, le manque de productivité, c'est l'absentéisme, c'est la quantité d'emplois qui ne sont pas pourvus, c'est globalement la perte de foi dans le travail. Et il faut qu'on ait, nous, une réflexion sur ce sujet, parce que souvent, on considère que la politique de l'offre, c'est soutenir l'esprit d'entreprendre des entrepreneurs, mais il y a aussi l'esprit d'entreprendre de nos collaborateurs, et ça, c'est la foi dans la valeur travail. C'est le fait qu'on s'engage en tant que collaborateur à pousser son entreprise, à être à son poste, à redoubler d'efforts. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse au fait que le travail ne paye pas assez.
Alors, justement.
Et il faut probablement qu'on l'intègre dans nos paramètres.
On a 4 minutes. Mais qu'est-ce que vous avez. Oui, Isabelle.
Il y a aussi un sujet qu'on a tendance à oublier quand on raccourcit les choses, c'est qu'on est dans une phase économique assez incroyable. Oui. Après le Covid, oui. Qui a généré effectivement un impact sur le manque de stock, de rupture de produits, et donc ça a eu un impact sur l'économie immédiate. Et puis après, le fait de la guerre en Ukraine, qui est aujourd'hui, et l'explosion du prix de l'énergie. Et tout ça sont des dimensions qui peut-être n'avaient pas été suffisamment anticipées.
Bah, l'Allemagne en a fait
les frais. Au moment du budget, ouais. Et qui expliquerait en partie les dérapages.
Bon, qu'est-ce que vous êtes 3-4 minutes avant la pause, qu'est-ce que vous attendez, puisque vous parlez de revalorisation du travail, qu'est-ce que vous attendez du futur gouvernement, celui qui va émerger, voilà. Parce que si j'en croyais, si je vous écoute, André, c'est oui, on va nous dire, on continue la politique de l'offre, mais pas n'importe laquelle, pas n'importe quoi, finalement. Une stratégie, toujours et encore, c'est ça l'idée, finalement.
Une vision. Une stratégie.
Une vision, une stratégie, des priorités. Je veux dire, gouverner, quelqu'un disait, gouverner, c'est nommer. Bon, ça y est, au bout de 60 jours, le Premier ministre est nommé.
C'est quoi une bonne politique de l'offre? C'est quoi une bonne politique de l'offre?
C'est de faire des choix, c'est-à-dire, sur l'énergie, quels sont les sujets essentiels? Sur les sujets d'innovation, quels sont les sujets essentiels? Le Premier ministre s'est déplacé à l'hôpital pendant samedi, sa première journée de fonction. Je pense que c'est essentiel, parce que quelles sont les missions régaliennes de l'État, et que l'État les fasse bien. Et je pense que ça revalorisera d'abord le personnel santé qui est absolument dévoué, mais qui est à bout. Ça revalorisera, on est en une période de rentrée, le personnel enseignant, parce que si on veut préparer l'avenir de nos enfants, de notre pays, c'est de nos enfants qui comptent. Et quand je vois qu'aujourd'hui l'école publique, il y a de moins en moins de gens qui y vont parce qu'il y a une fuite vers le privé, il faut quand même aussi l'écouter, ça. Quand 30% de la du personnel de l'enseignement de l'éducation nationale n'est pas en face des enfants, on a quand même un sujet, c'est que la technostructure est devenue immense et donc incontrôlable. Donc quelque part, les gens qui sont aux manettes aujourd'hui ne comprennent plus la boîte noire. Donc faire des choix, okay. Les expliquer, okay. Et s'y tenir. Et ne pas faire plaisir à tout le monde. On a fait plaisir à tout le monde dans les 7 dernières années.
Bon, en même temps, peut-être montrer qu'on ne pouvait pas additionner et en même temps, effectivement, faire plaisir à tout le monde de manière à considérer. Mais je trouve tout de même que l'on a quelque chose dans notre pays que l'on n'a probablement pas bien diagnostiqué. C'est que petit à petit, ce glissement des charges supportées par le travail.
Alors.
Qui fait. J'aimerais bien en dire un mot si ça vous semble être le bon mot.
D'autant que vous avez une petite litote depuis une semaine, on va voir ça, une chronique qui est parue dans le journal Les Échos, qu'on va voir à l'image dans un instant. Vous le dites, revaloriser le travail.
C'est un point qui est essentiel.
C'est un point. Michel Barnier a semblé l'évoquer, ce point, dans son.
Alors, non seulement il a semblé l'évoquer, mais il faut que l'on fasse un peu le diagnostic de pourquoi est-ce que, petit à petit, on a perdu foi dans le travail. Ouais. Et vous savez que les syndicats sont très attachés aux charges sociales, charges patronales et charges salariales, parce qu'ils considèrent que c'est du salaire socialisé. Parce qu'en face, il y a des prestations et des droits. Mais au bout d'un moment, quand vous versez un salaire qui est perçu de moins de 4 000 euros et qu'il a coûté 8 500 euros au chef d'entreprise, c'est le chef d'entreprise probablement allé au maximum de ce qu'il pouvait donner.
Oui, bien sûr.
Et donc, on a une tension aujourd'hui, c'est qu'on a fait supporter sur le travail l'essentiel des charges de nos 500 et plus de 500 milliards de dépenses sociales. Or, ajuster le mix fiscal, C'est, me semble-t-il, un élément qui est essentiel parce qu'on n'a probablement pas perçu les effets pervers d'un glissement que personne n'a véritablement décidé, mais qui a probablement fini par totalement émousser l'engagement de nos collaborateurs, en tout cas de façon massive, et ça se traduit par cette perte de productivité. Ça, c'est véritablement un diagnostic presque médical qu'il faut faire, et on a porté le remède très rapidement.
Ça fait partie des termes, entre autres, qu'a employé Michel Barnier, je pense. Enfin, c'était le discours sur le perron de Matignon, après on verra ce qu'il en restera.
Est-ce qu'il y a une TVA sociale à la clé ? C'est en tous les cas le remède que tout le monde diagnostique en disant que ce n'est pas vendeur électoralement.
Non, mais ce qui est effectivement évident, c'est qu'aujourd'hui on sent un appauvrissement des Français, alors même que les salaires n'ont cessé d'augmenter, en tous les cas, évidemment, et que la charge fiscale qui est liée n'a cessé d'augmenter. Donc se pose la question de l'efficacité de l'investissement social. On parlait tout à l'heure, effectivement, de l'hôpital. L'efficacité des impôts, aujourd'hui, n'est absolument pas perçue, alors qu'ils sont, pour une partie très importante, capteurs de la valeur ajoutée qu'essaie de créer la France.
Non, moi, André, là-dessus.
Oui, je vais vous donner un exemple concret, parce que je pense que j'ai eu malheureusement quelqu'un de ma famille qui était hospitalisé à l'hôpital Bichat. L'hôpital Bichat, 40% des lits sont aujourd'hui fermés. Et on est parce que on économise sur les investissements qui ont été faits. Et ce qui reste, c'est une capacité très faible d'embaucher des gens qui sont souvent en plus des gens qui sont en tout premier emploi. Alors les gens sont dévoués. On a un personnel médical de pointe. On a un personnel soignant totalement dévoué qui est payé. Enfin, je ne sais pas comment ces gens peuvent vivre dans la région parisienne. Enfin, c'est quasiment impossible. Et donc, on sent bien qu'aujourd'hui, en fait, on gère extrêmement mal. On a des investissements très lourds en termes de structure, mais qu'on ne peut pas ouvrir. 40% des lits fermés, tout simplement parce qu'on n'a même plus les moyens de payer du personnel. Donc là, on a un vrai problème de gestion de base de l'État qui est un
et globalement de maîtrise de notre destin collectif.
Il faut avoir quand même un peu les hôpitaux pour savoir ce que c'est effectivement au quotidien. Allez, 19h31 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h36, on est reparti avec Leonidas Kalogeropoulos, avec Isabelle Bordry, avec André Loscu-Pietri. Alors Apple, donc la keynote qui vient de débuter du côté de Cupertino aux États-Unis, bien sûr. Édition spéciale Tech & Co à partir de 20h, évidemment. François Sorel, tous ses invités. Il y a une petite vidéo là apparemment qui a été présentée avec une prise de parole de Tim Cook. Je cite, nous sommes ravis. C'est pas une surprise, hein, de présenter les premiers iPhones conçus dès le départ pour Apple Intelligence. Voilà, disait, j'aime beaucoup la formule de l'AFP, les premiers iPhones infusés à l'intelligence artificielle générative. Alors voilà, c'est la question qu'on pose. Est-ce que pour vous, c'est une année charnière pour le groupe ? Est-ce que vous croyez que Apple pourra aujourd'hui, demain, véritablement capitaliser sur l'intelligence artificielle générative ? André, comment est-ce que vous regardez ça,
ce
vous
qui est assez intéressant, c'est qu'Apple, pendant longtemps, était parmi les GAFAM. Alors maintenant, on appelle ça les Magnificent Seven. C'est la société qui était moins portée sur l'IA. Hein, c'est pas celle qui a fait les premiers paris. Et là, on sent que, bah, aussi, grâce à son trésor de guerre, elle peut se permettre de rattraper, de faire des grands paris. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, elle sent aussi probablement qu'elle est arrivée à la limite des prix qu'elle peut demander à ses consommateurs, à ses clients, d'où les baisses de prix. Ensuite, on sent aussi qu'on est dans une phase de transition, c'est-à-dire l'IA, on est vraiment dans le cycle de la fameuse courbe de Gartner. D'abord, il y a cette excitation fabuleuse, il y a exactement, maintenant il y a un an et demi, 18 mois. Il y a 6 mois, on nous promettait vraiment un avenir radicalement bouleversé, et depuis quelques semaines on sent bien que le sujet de productivité, d'impact réel seront plus lents
les cas d'usage,
à obtenir. Les cas d'usage, voilà. Donc on est dans une phase de formation extraordinaire, et ce qui se passe dans toutes les organisations est extraordinaire, et je pense que Apple veut se retrouver et en fait veut faire test, je pense utilise son énorme base de clients pour tester les cas d'usage c'est une société qui est évidemment au cœur de cette interaction entre clients et la machine.
Donc en aucun cas vous dites que des concurrents comme Samsung qui ont déjà mis sur le marché des téléphones justement infusés, j'aime beaucoup l'IA générative, c'est pas rédhibitoire.
Je pense que c'est formidable pour la stimulation du marché.
Bien sûr.
Très saine concurrence. Quand Steve Jobs a lancé sur le marché son iPhone, c'était une complète rupture technologique. C'était une rupture technologique en termes de hardware, c'était une rupture technologique en termes de logiciel, d'interface utilisateur.
Ouais.
Et depuis maintenant un peu moins de 20 ans, on s'aperçoit qu'il y a eu des améliorations par touche. On a amélioré l'appareil photo, on a amélioré le hardware d'une manière générale, les capacités de calcul, le logiciel, mais il n'y a pas eu de rupture d'interface. Et donc tout le monde attend effectivement de l'IA qu'il y ait à un moment donné cette rupture. Alors après, on a beaucoup parlé du blockchain. Il y a 5 ans, il y a eu la mode du blockchain.
Le métaverse.
Du métaverse, ouais, qui nous promettait un deuxième monde absolument formidable. Je pense que l'enjeu là est plus un enjeu d'interface, c'est-à-dire dans 10 ans, est-ce qu'on sera accompagné d'un agent intelligent qui sera peut-être les AirPods, qui sera peut-être la montre, qui sera peut-être tout sauf un écran? Et on pourra effectivement, éventuellement, intégrer des morceaux du monde digital dans le monde réel. C'est-à-dire ce qu'a fait Steve Jobs en 2007, il nous a permis dans la mobilité et dans la vie quotidienne d'accéder en permanence au monde digital. Mais aujourd'hui, le monde réel et le monde digital sont encore côte à côte, on va dire. Et je crois que tout l'enjeu en termes d'interface, et c'est ce qu'Apple a commencé à démontrer il y a 6 mois lorsqu'ils ont lancé leurs nouvelles lunettes, c'est d'intégrer les deux, c'est-à-dire de mixer les deux, c'est-à-dire de voir Guillaume et à côté d'avoir un message de mon fils qui m'explique que les cours se terminent plus tôt ce soir. Et donc d'avoir un mélange de la réalité virtuelle ou digitale et de celle que l'on vit tous les jours. Et je pense que c'est ce qu'attend le marché. Ça demande beaucoup de capacité de calcul,
oui,
et donc beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'investissement, et on en revient à la discussion de départ.
Donc la vraie révolution n'est peut-être pas pour cette année chez Apple, des peut-être que ça sera vraiment dans 1 an, 2 ans, une fois que on aura...
Oui, peut-être. Peut-être que c'est pas le moment charnière où on a une nouvelle rupture de la même intensité. Que
ça fait des années qu'on l'attend effectivement ce nouvel effet waouh chez Apple. Voilà.
Oui, est-ce qu'il y a un effet waouh tous les ans? Enfin, c'est pas tout à fait évident d'être tous les ans sur une rupture de cette nature. C'est vrai que on se souvient tous de Metaverse qui devait être soudain un nouvel univers. Je crois que on l'attend un peu et puis on se dit finalement c'était pas là. Moi, ce qui me préoccupe à chaque fois, et c'est le cas aussi avec l'intelligence générative, l'IA générative, c'est aussi quand même de veiller à ce que ce ne soit pas des espèces de siphons dans lesquels on prend la richesse de tous les autres acteurs que l'on a autour et il n'y en a qu'un seul qui arrive à la faire prospérer. André parlait tout à l'heure des 7 sociétés qui dominent le numérique. Leurs pratiques monopolistiques sont quand même un véritable problème. Et à chaque fois, là, on l'a avec l'App Store d'Apple, on l'a avec l'ensemble des, on l'a avec Google, on l'a systématiquement. Alors, c'est la frustration, elle est quand même terrible, et je pense qu'on la partage tous ici, c'est que l'on parle de ces technologies qui nous arrivent d'outre-Atlantique. Ça va nous amener certainement sur le rapport de Mario Draghi.
Bien sûr,
malheureusement, on n'attend pas la même chose d'un grand acteur du digital français ou européen.
André,
c'est quand même une grande frustration.
André, mais je vais faire un lien avec notre discussion précédente, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte en entendant Isabelle ou Léonidas, c'est qu'en fait, il y a eu toujours des expérimentations. Il y en a plein qui n'ont pas marché. Celle que Steve Jobs a lancée avec cette interface radicalement nouvelle, cette capacité d'intégrer les apps, les contacts, c'est une expérimentation qui a marché. Donc la conclusion, c'est qu'il faut expérimenter sur l'ensemble du tableau. Zuckerberg a expérimenté avec le métaverse, ça n'a pas marché, ça marchera peut-être dans 2-3
ans. Oui, il s'en porte bien pour autant. Hein.
Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'expérimente pas, si on n'a pas ces espèces de visions où on se dit c'est là où il faut aller, on est sûr de perdre. Et on revient sur un état d'esprit, c'est-à-dire que si on se disperse parce qu'on ne sait pas où on va, on est sûr de perdre. En investissant parfois le même argent. Nous, on donne toujours ces exemples où, en fait, les montants d'innovation en termes de recherche fondamentale, je ne parle pas maintenant en termes de technologie, aux États-Unis et en Europe, sont équivalents. Mais qui aujourd'hui est capable de transformer ça? Parce qu'il y a ces grands paris. Et Draghi dit exactement ça.
Il a cette phrase,
nous dilapidons nos ressources communes parce qu'on veut tout faire.
Qu'est-ce que vous attendez de Steve Jobs ce soir?
De Tim Cook, pardonnez-moi, de Tim Cook, excusez-moi, voilà, c'est une époque, on parlait de
Steve Jobs tout à l'heure.
Un peu ça. Qu'est-ce que vous attendez de Tim Cook ? Il va pas vous sortir les cas d'usage ce soir, Tim Cook. Qu'est-ce que vous attendez de sa part ce soir sur scène ? Quels arguments ? Pour vendre le fait que la révolution est en marche.
Évidemment, Apple a enchanté quelque part tous ceux qui aiment la technologie. Et c'est vrai que d'avoir des innovations qui, soudain, sont des cas d'usage nouveaux, et on se dit, on va l'avoir en main, il y a quelque chose de fascinant que la maison Apple a été capable de porter. Et j'imagine que c'est ça qui fait rêver le monde.
Isabelle.
En fait, c'est changer nos vies quotidiennes.
Oui.
C'est comment ces agents intelligents, ces nouvelles interfaces vont changer nos vies quotidiennes. Ce qu'ils ont déjà fait depuis maintenant 10 ou 13 ans. Et je pense que le sujet européen, et que l'on va traiter avec Mario Draghi, c'est le sujet de taille, d'espace de marché pour expérimenter. Mmh. Est-ce que la force des États-Unis et la force de la Chine, c'est la taille des marchés au-delà, effectivement, des investissements.
Une cause ancienne d'André.
D'accord, Isabelle est une vraie Jedi, c'est formidable.
Oui, bien sûr,
mais
vous absolument. Êtes tous un peu Jedi autour de cette table, je le rappelle.
Et l'État a dit ça il y a 6 mois. Enfin, de toute façon, l'Europe est fabuleuse pour faire des rapports. Donc, il y a eu le rapport de l'État de l'ancien Premier ministre. Maintenant, on a l'ancien Premier ministre, président du Conseil italien. Mais non, absolument, il ne faut pas oublier, il y a à la fois l'expérimentation, les grands paris. Ça, c'était Steve Jobs. Mais je pense que ce que Tim Cook, pour répondre à votre question spécifiquement, c'est cette capacité aussi ensuite Apple de raffiner et d'optimiser l'interface utilisateur. Et je pense qu'aujourd'hui on essaye tous ChatGPT, on va sur les prompts, qui sait qui est allé au-delà du prompt de base? Très peu. Je disais un rapport que dans les utilisateurs d'OpenAI, enfin 4.0, GPT 4.0, il n'y en a que 0,01% qui utilisent la fonction codage automatique. Si grâce à ces outils, ces interfaces, comme le dit Isabelle, on peut rendre ça beaucoup plus transparent, fluide pour les utilisateurs, mais ça serait un enchantement. Moi, je compare ça avec la différence entre, je veux pas faire de pub pour Apple, mais il y a, oui, Apple a séduit tout le monde avec les appareils photo intégrés, le fait de...
Oui.
Mais ensuite, chaque génération faisait des photos encore plus merveilleuses avec la profondeur, les flashs, etc.
Bien.
Et ça nous rend fidèles.
Alors, Mario, je sens que vous avez envie de parler de Mario Draghi et de l'Europe. Donc, Mario Draghi, effectivement, qui appelle à sortir l'Europe de sa torpeur.
Notre nous.
Rapport choc aujourd'hui de Mario Draghi, qui a beaucoup fait causer, qui pose la question comment rendre l'Europe plus productive. Il dit il faut plus de productivité, on en parlait, plus d'investissement dans bien des domaines, l'écologie, la défense, l'innovation. Et pour ça, il le dit, ah ça c'est le mot qui fâche, il faut faire plus d'emprunt au commun au niveau européen. Écoutez Mario Draghi ce matin.
Un financement en commun sera nécessaire pour des projets clés. Ce sera nécessaire pour les réseaux, ce sera nécessaire pour les innovations de rupture. Et faire un financement en commun pose la grande question, qui ne prend pas beaucoup de place dans le rapport, parce que c'est seulement une question d'instrument pour atteindre l'objectif. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il faut un grand emprunt en commun ? Oui. La réponse est oui. On a besoin d'un financement en commun, et cela passe par une dette en commun.
Et ça, c'est le mot qui fâche par excellence, Léonidas. On sait très bien que personne, à part la France, est encore disposé à faire de l'emprunt en commun aujourd'hui au sein de l'Europe.
Bon, il y a quand même un certain nombre d'avancées qui ont été non pas planifiées, non pas prévues dans les traités, mais que dans la praticité, l'Europe a permis d'expérimenter, notamment avec le Covid. Il y a eu ces grands emprunts. Et donc finalement, à propos de stratégie, Mario Draghi est en train de donner un cap à ces instruments et de dire il faut qu'on s'en empare et qu'on les mette à l'échelle. Et l'échelle, elle est donnée par nos concurrents.
800 milliards. Hein.
800 milliards, elle est donnée par nos
concurrents. 800 milliards investissés tous les ans,
elle est
800 milliards
par la
de
Chine
plus.
Et par les États-Unis. Et si on n'est pas à la hauteur, eh bien, on n'y arrivera pas. Et finalement, il tire une sonnette d'alarme. Il dit qu'on est en perte de vitesse, et on est en perte de vitesse générale sur la productivité, effectivement, sur l'innovation, sur l'enrichissement. On a presque l'impression que l'image que nous renvoie Mario Draghi, c'est une Europe qui s'appauvrit en même temps que ses deux concurrents principaux sont en train de prendre le leadership. Et donc là, je trouve que c'est un électrochoc salutaire au-delà même de la question.
Il est dans l'angélisme le plus total. Il sait très bien que ce sont des mots repoussoirs, emprunt commun, d'être commun. Enfin,
je ne sais pas, parce que le propos est extrêmement clair. Le propos est extrêmement clair. Et on a assisté ce matin à une leçon d'économie, mais...
Et puis c'est Mario Draghi.
Très, très détaillé, avec une autorité d'homme politique, de professeur, de président de la BCE, qui est explique que la variable d'ajustement de la monnaie, tel qu'il l'a utilisé lorsqu'il était à la tête de la BCE, n'est plus suffisant. Et qu'aujourd'hui, ce qui est absolument nécessaire, notamment depuis la crise du Covid, mais aussi parce qu'il y a guerre en Ukraine et donc explosion des prix de l'énergie, il faut de la compétitivité. Donc il faut éviter d'augmenter les barrières douanières, ce qui est le réflexe que l'on voit aujourd'hui. Vous parliez d'appauvrissement, c'est exactement ça. Aujourd'hui, quand il y a un vote qui est un vote révolutionnaire, soit LFI, soit RN, soit extrême droite, comme on voit en Allemagne, ça révèle quoi ? Ça révèle un malaise énorme, qui est lié à l'économie, qui est lié à un appauvrissement. Et effectivement, depuis 20 ans, la France, mais aussi l'Europe, a des écarts d'évolution de PIB et de croissance qui sont de plus en plus gigantesques par rapport à la Chine et les États-Unis. Donc l'Europe se déclasse, donc les gens le sentent, donc ils veulent des réactions. Ce que nous explique aujourd'hui Mario Draghi est très simple, c'est de dire on ne pourra pas continuer à laisser les Chinois subventionner les green tech avec les panneaux solaires qui envahissent, avec les voilà. Donc il faut absolument investir dans la transformation de nos économies, que ça soit du côté des green tech et du digital, et il faut assurer aussi la sécurité des populations. Et donc en fait, on revoit un peu ce qui a été fait il y a 40 ou 50 ans, entre autres par le général de Gaulle, dont dans les dernières campagnes politiques, tout le monde se prévalait, c'est j'investis dans une énergie, le nucléaire, de manière claire, est-ce que c'est bien ou pas ? En tous les cas, aujourd'hui,
il y a un choix.
Mais effectivement, il y a un choix qui a été fait dans les industries et dans les infrastructures. Et en gros, Mario Draghi dit la même chose. Mais si on veut continuer à être en pointe, il faut avoir le même type de démarche.
André, qui œuvre, la Jedi, on rappelle, qui œuvre sur ces questions de compétitivité européenne à longueur d'année. André, est-ce qu'il est salutaire?
On a eu la chance.
Est-ce qu'il n'est pas trop angélique là,
on a eu la chance d'être interviewé par l'équipe de Draghi et j'ai eu la chance de voir le grand homme début août. Donc je passe. En tout cas, beaucoup de nos arguments, qui sont notamment le sujet qu'il faut investir sur le coup d'après et ne pas à nouveau dilapider nos ressources humaines, ça c'est les mots du rapport actuellement sur le coût de maintenant et sur les technologies de maintenant, ça a été repris. L'autre chose, il parle des 800 milliards, mais en parallèle, il parle aussi, et ça je pense qu'il faut insister là-dessus, parce que ça on n'a pas trop envie, il faut changer nos méthodes. J'avoue que j'ai un grand doute parce que la récipiendaire du rapport, donc Madame von der Leyen, je crois, s'est révélée et son équipe comme une fabuleuse gestionnaire de crise, mais on a empilé les structures de gouvernance, on a fait de la Commission, Dieu sait que je suis européen convaincu, quand même un organisme bureaucratique invraisemblable. Et je rappelle qu'il y a exactement une semaine, la Cour des comptes européenne, sur le fameux emprunt de 750 milliards qui avait été levé en mai 2020 pour le Covid,
et qu'il va falloir rembourser,
l'a étrié en disant vous n'avez dépensé que 30%, 35% de l'argent en 4 ans et demi. Donc, un, vous n'êtes pas allé assez vite. Deux, il n'y a aucune mesure d'impact. Qui c'est qui peut me dire ce qu'a été l'impact de ces 150 milliards. Donc c'est là où ça va être très compliqué. C'est-à-dire, si on ne change pas les méthodes, c'est ce que dit Draghi, il n'y aura évidemment pas de capacité de lever de l'emprunt en commun. Mais je crois qu'il y a un chemin étroit. C'est est-ce que les différents gouvernements, à commencer par le gouvernement français, mais aussi le gouvernement allemand, sont capables de dire on va arrêter des choses. On va arrêter
les déjà envoyer des gages de stabilité budgétaire chez soi avant de plaider pour un doublement du budget européen et tutti quanti, André. Voilà, c'est aussi ça finalement. Oui, Isabelle, pardon, très vite.
Mais il y a aussi un sujet qui était vraiment intéressant, c'est le côté antitrust. C'est-à-dire que Mario Draghi a expliqué qu'il fallait qu'effectivement les organismes antitrust ne raisonnent plus uniquement sur le marché européen, mais sur le niveau mondial, et qu'ils s'assurent que les groupes aient la capacité effectivement d'innover. Donc, au lieu de casser un groupe européen, de le mettre effectivement dans une dimension mondiale pour s'assurer qu'il est capable, et voilà, et de ne pas casser les dynamiques européennes.
Mais donc, en tous les cas, que c'est vrai que c'est
une prise de conscience sur l'importance de la taille de marché et sur la nécessité d'investir rapidement.
Voilà, le marché pertinent, c'est le monde.
C'est le monde.
C'est le monde. Cela dit, je trouve que ce rapport de Mario Draghi, c'est un reflet de la situation française. Presque la France, un peu le laboratoire de tous les maux de l'Europe, entre la désindustrialisation et la productivité en berne.
C'est un beau...
Effectivement, voilà, les premiers concernés.
C'est un bon copier-coller, comme on dit. Allez, 19h53, l'extra time pour finir. Vos avis du soir, 30 secondes, coup de gueule ou coup de cœur. Bah, ça, c'est à votre libre arbitre. Évidemment, qui va commencer? Bah, Isabelle, tiens, c'est à vous. Allez-y.
Alors, moi, c'est les Jeux para-olympiques. Parce que je trouve que cet été, il s'est passé quelque chose de formidable. Il y a eu ces Jeux olympiques qui ont transporté tous les Français. Et les Jeux para-olympiques qui ont complètement bouleversé chacun d'entre nous. Et donc, les places ont été démultipliées. Les organisateurs en attendaient 750 000 billets vendus. Oui. On a eu 2,5. L'audience attendue en télévision était de 30 millions. Elle est allée à 49 ou 50 millions. Donc, un engouement extraordinaire. Et j'espère que cet engouement se continuera de manière généreuse avec nos 9 millions d'handicapés en
absolument,
France.
Absolument, il faut continuer.
Ils seront, j'espère, de mieux en mieux inclus dans nos vies professionnelle et quotidienne.
Le coup de cœur ce soir d'Isabelle Léonidas, 30 secondes.
C'était 30 secondes un peu rapide, peut-être moins que 30, pour souligner quand même que nous avons eu un Premier ministre qui est probablement le Premier ministre le plus pacifié que l'on puisse avoir dans le climat politique que nous avons. On lui a quasiment promis un comité d'accueil qui devait être révolutionnaire ce samedi et à l'évidence ça a fait flop. On peut peut-être imaginer qu'il y a encore une espèce d'ambiance de consensus qui reste de ces JO et la volonté de casser notre pays est peut-être, a peut-être beaucoup reflué. Et en tous les cas, j'ai le sentiment que depuis le début de cette semaine, on peut espérer que cette séquence va être prometteuse et constructive.
Coup de cœur, empreint d'espoir de la part de Nidas ce soir. André, 30 secondes.
Je vais rester dans cette ambiance positive.
Allons-y.
Je pense que quand on montre un cap clair, comme on l'a vu pendant les JO, mais surtout qu'on ne s'arrête pas à la vision, mais qu'on l'exécute dans le plus parfait détail.
On a délivré.
Je pense que ce qui a impressionné les étrangers qui sont venus chez nous, mais les Français et les Parisiens en premier, c'est à quel point tout a été huilé. La sécurité, le métro, la signalétique, etc. Donc la clé dans le monde, dans le 21e siècle, c'est vraiment la capacité d'exécution sur le budget, sur l'innovation. Bon, donc il y a de l'espoir.
Comme quoi on s'est délivré, voilà la grande leçon de ces dernières semaines. Merci à tous les trois d'être venus ce soir. Isabelle Bordré pour Retency, Leonidas Kalogiropoulos, Médiation Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Et André Lostuc-Pietri, président de la JEDAI, qui œuvre tous les jours sur ces questions de compétitivité en Europe. Merci beaucoup, à très vite, avec plaisir.
Merci
à tous les
beaucoup.
Trois sur BFM Business, 19h56. Tech & Co, la keynote d'Apple, toute la soirée à vous faire vivre sur BFM Business, bien sûr. Et on se retrouve demain, 18h. Bonne soirée à demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.